Cube Radio.
Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Un peu partout dans les sociétés occidentales, on constate l'existence dans le système médiatique du politiquement correct, qui balise l'espace du pensable, qui condamne surtout ceux qui ne partagent pas certaines convictions officielles et imposées, aux marges, au bannissement ou à tout le moins à la marginalité. Et pourtant, en certains pays, en France notamment, existe une dissidence au sein de l'espace médiatique, un discours critique qui est parvenu à s'installer au cœur des médias. Comment fonctionner dans un système idéologique qui fonctionne au politiquement correct et le critiquer sans pour autant s'en expulser une fois pour toutes? C'est la question que je poserai aujourd'hui à Charlotte Dornelas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, question toute simple que je posais de manière un peu théorique, mais je vous pose directement. Vous évoluez dans un système médiatique et intellectuel qui, depuis une cinquantaine d'années, est globalement marqué à gauche. Et on ne saurait utiliser cette étiquette pour vous qualifier. Alors, question première, tout simplement. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Comment parvenir à évoluer dans un tel système qui a tendance globalement à transformer en proscrit ou à tout le moins en polémiste, à tout le moins en controversé, en très controversé, ceux qui remettent en question ses évidences, ceux qui remettent en question son hégémonie et son récit de l'actualité?
Alors, je pense que c'est d'abord une question de caractère et d'éducation. Ça vient de loin, en fait, l'idée de se prémunir de l'idée qu'il faut penser forcément comme tout le monde, surtout, et comme tous les gens qui nous entourent en permanence, surtout. Ça s'appelle l'esprit critique. C'est quelque chose qui était extrêmement reconnu, cultivé, enseigné et développé chez les enfants pendant très longtemps, qui s'est affaibli à mesure que le niveau intellectuel général s'est affaibli, à mesure que l'école a renoncé à toute exigence sur le terrain de l'apprentissage qu'elle transmettait aux enfants. Et c'est en l'occurrence quelque chose que j'ai eu la chance de me voir transmis par mes propres parents, qui m'ont sur beaucoup de sujets expliqué qu'il n'était pas nécessaire de penser systématiquement comme les gens qui nous entouraient pour être respectable, et qu'il était possible parfois d'avoir une intuition contraire à ce que professaient les gens qui étaient autour, et poursuivre cette intuition, essayer de la comprendre, essayer de l'argumenter, essayer de savoir si l'intuition est juste ou non, évidemment, et ensuite trouver les moyens de la défendre si elle s'avère juste ou exacte selon les circonstances. Donc donc d'abord c'est effectivement un état d'esprit qui a été cultivé pendant de longues années, et puis après, quand j'ai commencé à faire ce métier, je crois qu'il y a deux questions en fait dans votre question. Il y a d'abord la question de savoir est-ce qu'il est pertinent de se revendiquer de gauche ou de droite aujourd'hui dans ce pays. Moi, je pense que le clivage historiquement, philosophiquement est pertinent, et c'est pour ça que j'assume volontiers, ou je revendique même, de m'inscrire à droite dans l'échiquier politique. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout géographique, encore moins ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à droite et qui n'étaient pas réellement de droite, et beaucoup de gens qui étaient placé à droite et qui ne se revendiquait pas du tout de droite, et que en effet dans le débat public il y avait les gens de gauche qui étaient les gens respectables, et tout ce qu'on ne voulait pas entendre ou laisser parler était classé à droite, droite dure, droite, je vous laisserai aller sur ce terrain-là, vous le faites parfaitement. Mais simplement, philosophiquement, si on remonte en tout cas en France, alors évidemment pendant la Révolution française, la distinction entre gauche et droite se fait au moment de voter la mort du roi, on pourrait remonter jusque-là, mais je crois que ça se fait sur une idée maîtresse aujourd'hui, cette distinction entre gauche et droite, c'est la question de l'héritage. Est-ce que nous sommes, oui ou non, est-ce que nous avons l'humilité, entre guillemets, de nous reconnaître héritiers d'une histoire, d'une culture, d'un pays dans lequel nous sommes les maillons d'une chaîne le plus respectueux possible de ce qui nous a été transmis, avec la volonté de le transmettre aux générations futures? En clair, est-ce que nous acceptons de voir que la France nous a précédés et que nous aimerions qu'elle puisse nous survivre? Je pense que c'est vraiment un marqueur aujourd'hui de droite. Et à l'inverse, la gauche est très constructiviste, on pourrait dire, c'est-à-dire que rien de ce qui nous a été donné n'est à la hauteur de ce que nous allons pouvoir faire, ni de ce pays, ni du monde entier, ni même de l'homme et de la femme, puisque désormais il faut la citer à chaque fois qu'on cite l'homme. Donc c'est vraiment cette distinction que j'assume absolument. Maintenant, comment est-ce qu'on fait du coup pour se revendiquer de droite en ayant assumé ça précédemment dans un monde qui se, en tout cas, se revendique clairement de gauche et assume des idées très progressistes. Je crois que pendant très longtemps, il a été impossible de le faire, non pas tellement par censure, mais par autocensure, par culpabilisation permanente. Il était impossible d'être quelqu'un de fréquentable, de respectable, si on était classé à droite par les opposants, à partir du moment où on sait pourquoi on se revendique, et non pas, moi je me laisse pas classer à droite, je me revendique de droite pour les raisons que je viens d'évoquer, et par conséquent, je sais exactement pourquoi je pense que je pense. Je sais que c'est respectable parce que avec mon intelligence, j'ai essayé de construire aussi ma pensée, de l'argumenter, de la consolider. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux me regarder dans une glace avec ce que je défends. Donc par conséquent, si je peux me regarder moi dans une glace, je peux l'assumer devant d'autres gens, essayer de leur expliquer. Et ensuite, en face, il y a soit des gens de bonne volonté qui écoutent ce que j'ai à dire et qui sont capables de comprendre au minimum la cohérence de l'argumentation que j'essaie de mettre en place, ou alors des gens d'une absolue mauvaise foi qui décideront de me coller toutes les étiquettes les plus infamantes sur le front, et j'ai décidé de pas trop m'en occuper.
Alors, vous évoquez la question de la censure, mais aussi de l'autocensure. Alors, comment fonctionne, vous les avez repérés, vous avez remarqué, probablement observé dans votre environnement, comment fonctionne, chez vos collègues, d'une manière ou d'une autre, les mécanismes de l'autocensure, dans le milieu du journalisme notamment? C'est-à-dire, quand vient le temps de décrire des phénomènes, est-ce que vous voyez chez certains de vos collègues des gens qui voient les choses, mais qui se font un devoir de ne pas les voir pour préserver leur place dans l'univers médiatique?
Alors, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, et c'est la très bonne nouvelle en France, c'est que, en effet, il y a plusieurs profils, on va dire, qui se sont imposés dans le monde journalistique, avant même ma génération d'ailleurs, et qui ont réussi à briser l'unanimité idéologique médiatique ambiante. Donc ça, c'est la première chose. Oui, je constate très clairement une autocensure, notamment sur les questions d'immigration et de toutes les conséquences que ça a. D'ailleurs, conséquences assez multiples. La conséquence la plus peut-être la plus douloureuse aujourd'hui étant l'islamisation qui accompagne le phénomène d'immigration massive de ces dernières années. Là, il y a clairement un différentiel parfois saisissant entre les discours qui sont donnés sur les plateaux de télévision ou dans les écrits dans les journaux, et la discussion entre amis, on est entre nous, on peut dire que quand même on est vachement inquiet, on peut dire que quand même le pays a beaucoup changé, on peut dire qu'on sait pas très bien comment ça va se passer, qu'on sait pas très bien ce que ça va devenir dans les années suivantes. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, en fait, parce que je ne comprends pas comment je crois que la personne est, même c'est une question quasiment de salubrité intellectuelle, mais même psychologique, morale à la fin, d'être relativement unifié dans sa vie. Donc quelqu'un qui dit l'exact contraire de ce qu'il pense dès qu'une caméra est ouverte, je ne sais pas comment ces gens arrivent à vivre et à ne pas devenir fous, en fait, tout simplement, selon le principe de non-contradiction qui est quand même évoqué depuis quelques siècles maintenant. Je le constate. Et je découvre qu'en fait, c'est pas si difficile que ça de s'y opposer. Encore une fois, ça a tellement les idées qu'on défend aujourd'hui. Quand je dis on, c'est nous par exemple Valeurs Actuelles, mais tous les profils un peu dissidents, on va dire dans l'univers médiatique assez uniforme. C'est beaucoup plus exigeant pour nous. Pourquoi ? Parce que pendant 30 ans, il y a eu beaucoup de difficultés pour ces idées-là à percer dans le milieu médiatique. Donc c'est plus exigeant parce qu'on nous pardonne rien. Pas une erreur, pas le fait de se tromper. Alors on peut le voir de deux manières différentes. On peut se dire c'est extrêmement injuste parce qu'il y a des journalistes qui sont dans les médias très en vue et très respectables selon le vocabulaire autorisé, qui peuvent se tromper 15 fois dans la même journée, à qui on dira jamais rien. Et nous, on fait une erreur. On présente des excuses et on rétablit le fait sur lequel on s'est trompé, et c'est 15 jours de polémique. Alors on peut se dire c'est extrêmement injuste et passer nos journées à dire que c'est injuste, ou alors se dire bon, c'est une exigence après tout, que on aurait même envie de s'imposer soi-même dans un métier qui réclame quand même un minimum d'honnêteté et de recherche de la vérité. Moi, c'est le parti que j'ai décidé de prendre, mais j'ai été assez étonnée, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à faire ce métier, de la possibilité finalement de défendre les idées que je voulais défendre dans ce milieu-là, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ce que ça n'est en réalité. Alors, il y en a évidemment qui, encore une fois, vont coller des étiquettes, expliquer qu'on est des monstres animés par la haine. Moi, personnellement, je sais que ça n'est pas vrai. Donc, en fait, une fois que je sais que ça n'est pas vrai et que je sais les raisons pour lesquelles je défends ce que je défends et que, en fait, plutôt que de haine, je suis... c'est presque même une histoire d'amour à mon pays et à l'inquiétude de ce qu'il est en train de devenir. Donc, une fois que je sais que je suis sur ce terrain-là et pas sur celui que me prêtent mes détracteurs, je suis assez sereine pour briser la question de l'autocensure. Mais il est vrai que je constate sur certains sujets une autocensure folle, qui est peut-être en train d'exploser pour diverses raisons qu'on abordera peut-être, mais il y a de plus en plus de gens qui assument de dire qu'au minimum, on a un problème. C'est déjà le début.
Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années, surtout sous les années Trump, des fake news. Alors, évidemment, on a tous moyen d'en repérer quelques-uns. J'ai vu hier un rhinocéros qui volait. Bon, effectivement, fake news. Bon, délire. Mais la bataille, me semble-t-il, est infiniment plus subtile et j'aimerais vous entendre sur cette question. C'est-à-dire, quelquefois, il s'agit par exemple de caractériser un fait. Il s'agit de savoir si nous sommes devant un fait important ou un fait divers. Il s'agit de savoir si certains faits méritent d'être mentionnés médiatiquement ou s'il faut les laisser de côté parce qu'ils n'ont pas d'importance en tant que tels. Est-ce que la vraie bataille aujourd'hui, c'est pas non pas celle justement des fake news devant les vraies news, des real news, mais devant la capacité de caractériser le réel, donc la mise en récit de l'actualité, cette mise en récit qui permet de le mettre en perspective et d'en dévoiler la trame profonde au-delà des milliers d'événements dispersés qu'il compose?
Si, c'est une certitude, d'autant que les fake news, bon, encore une fois, il faudrait le définir et se dire, est-ce que le mot même de fake news induit la volonté de tromper chez la personne qui commet la fake news? Alors, d'abord, il y a parfois des journalistes qui se trompent, ils peuvent être excusés à partir du moment où ils reconnaissent leur erreur. Maintenant, beaucoup de la dénonciation de la fake news se fait sur un terrain idéologique, sur une manière de lire un fait. Moi, c'est une de mes grandes obsessions par rapport à la qualification du métier de journaliste. J'ai grandi dans un pays auquel on m'expliquait en permanence que la première qualité d'un journaliste, c'était la neutralité ou l'objectivité. Je ne crois pas un quart de seconde à cette farce, pour la bonne et simple raison que si on prend le terme d'objectivité, les journalistes sont des sujets et non pas des objets. Ils ont un regard sur le monde, sur les choses, sur les personnes qu'ils rencontrent. Ils ont un affect quand ils rencontrent quelqu'un. Il y a des gens qu'on aime plus ou moins de manière, d'une manière qu'on ne décide pas. Ils ont une éducation, ils ont des idées, ils ont une volonté de défendre plutôt une société qu'une autre. Et ça transpire forcément dans le travail qui est fait. Je crois que la vraie qualité du journaliste, c'est l'honnêteté, qui est parfois très difficile à assumer, hein. Parfois, on part en reportage, on a forcément une idée un peu de ce qu'on va voir. C'est normal, c'est humain. C'est même d'ailleurs quand on prépare un reportage, forcément, on se fait une idée de ce qu'on va rencontrer. Alors, l'honnêteté est extrêmement exigeante au moment où vous rencontrez quelqu'un qui vous étonne, où vous voyez de vos yeux un fait que vous ne vous attendiez pas à voir. Et ensuite, il faut, selon la formule, accepter de voir ce que l'on voit. Je pense que c'est ça la vraie qualité d'un journaliste. Et c'est pour ça que le domaine de la fake news et de la volonté, notamment gouvernementale, de réguler la vérité journalistique me fait extrêmement peur. Je vais prendre un seul exemple il y a quelques années, mais qui m'avait bien traumatisé, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui m'avait choqué au sens choc du terme. En 2015, quand arrive la ruée migratoire vers l'Europe, à l'époque, alors c'était Éric Ciotti, je crois, ou peut-être Estrosi, bon bref, peu importe, mais une personnalité de la droite gouvernementale ou républicaine, comme on dit, qui avait expliqué qu'il était possible que dans ces flux de migrants, on trouve des combattants de l'État islamique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme disait ça parce que quelques semaines plus tôt, l'État islamique lui-même avait fait une communication en expliquant qu'ils allaient profiter des flux de migrants pour pénétrer l'Europe. Et à ce moment-là, France Info, pour ne pas le nommer, fait un papier en disant « des terroristes parmi les migrants, point d'interrogation, un fantasme de l'extrême droite ». Là, on avait tous les mots-clés, c'était magnifique, très bien. Donc c'était un fantasme, parce qu'évidemment pas du tout, et c'est qu'en fait on était des monstres, et que comme on ne pouvait pas supporter l'idée que l'immigration puisse être une bonne chose, on voyait forcément des combattants de l'État islamique parmi les migrants, et qu'on ne voyait même plus que ça, comme si on n'était pas capable de faire la distinction entre quelqu'un qui mérite l'asile d'un pays parce qu'il est en danger de mort, et un terroriste qui se cache dans le flux de migrants. Quelques mois plus tard, survient l'attentat du Bataclan. Parmi les terroristes du Bataclan, il se trouve que plusieurs d'entre eux étaient arrivés dans le flot de migrants qui arrivaient censément de la Syrie. On a découvert plus tard que c'était absolument faux dans la plupart des cas. Et là, France Info n'a pas corrigé son erreur, c'est-à-dire n'a pas reconnu puis corrigé son erreur. Elle a tout simplement changé le titre, discrètement. Donc quand vous alliez chercher l'article sur le site de France Info, vous trouviez le titre, alors je ne sais plus ce que c'était, mais c'était « Des terroristes parmi les migrants, pourquoi cette idée pourrait être prise au sérieux ?» ou... voilà. Donc ils avaient changé le titre, extrêmement discrètement, après avoir jeté l'opprobre sur tous les gens qui s'inquiétaient légitimement d'une promesse que l'État islamique avait fait lui-même. Donc ça, est-ce que c'est une fake news ou pas? Ça n'a jamais été considéré comme tel, évidemment. Pourtant, ça pouvait en être une. Le problème, c'est quand vous allez sur la lecture idéologique des faits pour qualifier une fake news ou pas, vous refusez même le débat en fait d'idées à partir des faits. Et comme on a déjà du mal à s'entendre sur les faits ou sur les chiffres, c'est compliqué. Maintenant, pour en revenir à votre question...
Mais je vous reviens, ouais. Je reviens sur cette question sur un autre angle. 2019, en France toujours, je donne les événements de mémoire, mais je crois que c'est à peu près exact. Julia, une jeune femme trans, se fait agresser dans la rue par une... Manifestement, ce sont des gens qui ont tous le drapeau algérien d'une manière ou de l'autre de mémoire. Elle se fait agresser. Il y a une dimension culturelle à l'agression, manifestement. Lorsque c'est raconté... Dans la plupart des médias, on ne nomme jamais la présence des drapeaux algériens. Donc, on décide de neutraliser complètement, d'occulter complètement, d'oblitérer la dimension culturelle de l'agression. Parce que manifestement, elle se serait retrouvée dans un autre groupe d'une autre, je ne sais pas, la manif pour tous, aussi conservateur socialement soit-il, il n'y aurait pas eu d'agression. Est-ce que dans le fait de ne pas mentionner la présence du drapeau dans les circonstances, est-ce que c'est pas aussi une forme de fake news par oblitération de la réalité?
C'est évidemment la fake news par omission, on pourrait l'appeler comme ça, mais par volonté d'omission, c'est très clair. Et là, ça s'inscrit, votre exemple est parfait pour illustrer l'idée que on va analyser les faits à l'aune de son idéologie sans la moindre volonté d'honnêteté. En l'occurrence, dans la manière dont on présente les faits, il se trouve que depuis 2013 et le débat sur le mariage pour tous en France, on a voulu expliquer qu'un débat intellectuel sans insulte relevait déjà, pour les opposants au mariage pour tous, de l'homophobie, et que l'homophobie, donc de l'homophobie supposée des gens qui s'opposaient à ce projet de loi, entraînait les coups. Et on n'a pas voulu voir que ce n'étaient évidemment pas les mêmes personnes qui discutaient d'un projet de loi qui finissaient par tabasser quelqu'un dans la rue, en l'occurrence cette jeune Julia, personne transgenre, tabassée parce qu'elle était transgenre au milieu d'une manif. Donc effectivement, ça n'est pas noté. C'est vrai sur la question des homosexuels qui se font tabasser en France. C'est vrai sur la question de l'antisémitisme, les juifs qui sont chassés de leur quartier, qui sont parfois agressés et même tués dans ce pays. Et évidemment, on ne s'intéresse à la victime que pour alimenter l'idée qu'il y a de la haine en France, sans jamais identifier le bourreau qui parfois a changé de visage au fil des années, en l'occurrence dans ce pays. Donc oui, il y a une claire volonté de cacher une partie de la réalité, en l'occurrence dans l'exemple que vous donnez, et c'est souvent... en fait, quand il y a des agressions dans ce pays, on s'intéresse beaucoup à la victime et parfois au bourreau. Ça dépend comment est le bourreau, ça dépend comment est la victime. Et il y a en effet toute cette partie des minorités, ce qu'on appelait les minorités, qui ne peuvent pas idéologiquement faire partie des bourreaux. Ils ne peuvent pas faire partie des agresseurs, donc on ne va pas les citer, on ne va pas les donner. Mais là, on rejoint un peu cette idée. Alors j'ai l'air de basculer sur un autre sujet, mais ça me semble participer complètement de la même idéologie. Christiane Taubira, qui vote une loi en France. Alors là, c'est une autre loi, du coup, une loi pour reconnaître l'horreur de l'esclavage et la participation de la France dans l'esclavage, et qui explique, en le formalisant, c'était dans une interview donnée à l'Express, qu'elle ne veut pas mentionner la traite arabo-musulmane parce qu'il ne faut pas faire peser ce poids sur les épaules des jeunes arabes qui vivent en France et qui trouveraient ça trop lourd à porter. Alors, les jeunes français d'origine française, hein, appelons-les comme ça, alors eux, par contre, il n'y a pas de problème. Le poids, là, et puis on en rajoute tous les ans, et puis on refait une loi pour expliquer combien ils doivent avoir honte de ce qu'ils sont. Les autres, on va les épargner. Donc, c'est vraiment cette idéologie qui fait qu'en fait, la France a tout à se faire pardonner, et toutes les minorités qui la composent, dans la mesure où elles sont des minorités qui, dans leur identité particulière, s'opposent à ce qu'est l'identité de la France à travers les siècles. Alors eux, ils ont toutes les raisons d'être défendus ou alors, en effet, occultés quand il y a un fait divers. Mais il y a une autre chose, même dans la lecture, enfin, dans votre question initiale, c'est de savoir quand est-ce qu'un fait divers devient un fait de société. Et quand est-ce qu'un fait divers devient... Moi, je suis parfois fascinée des heures qu'on passe dans les médias à discourir et à débattre sur des faits divers qui sont des faits divers. Des choses absolument abominables qui arrivent. Un homme qui rentre par hasard dans une famille, puis il se trouve qu'il y a l'enfant, je prends un fait divers, imaginez, hein, exprès, mais et qui le tue et qui s'en va et qui en fait ne vole rien. Et puis voilà. Donc là, on va y passer 2 heures en se disant qu'est-ce que ça signifie. Et en fait, parfois, les faits divers ne signifient rien d'autre que l'horreur de la personne qui commet l'agression, le meurtre ou l'assassinat. Parfois, ça ne signifie rien d'autre que la criminalité. On va dire ordinaire dans une société, le mal traverse les sociétés et les hommes, et il arrive donc qu'il y ait de vrais faits divers. On est capable de s'attarder des heures là-dessus et de ne pas voir que certains faits divers, vous parliez de l'agression faite à cette jeune fille transgenre et donc de l'homophobie pour le coup réelle, c'est-à-dire l'homophobie physique, agressive, les agressions envers les personnes homosexuelles ou transgenres en l'occurrence, qui se passent dans certains quartiers. Je conseille pas en effet à 2 homosexuels d'aller se balader dans certains quartiers de la Seine-Saint-Denis, hein, pour ne citer que cette banlieue-là. La question de l'antisémitisme nouveau, on ne veut pas le voir et on va prendre les faits les uns après les autres. La question de la place des femmes dans la société, alors on s'imagine que la langue française est sexiste, et par contre on ne veut pas voir que certaines femmes ne peuvent simplement pas vivre comme elles désirent vivre dans certains quartiers en France. C'est la présence des policiers, alors on va prendre un à un cocktail Molotov, et alors tous les jours la phrase consacrée, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, notamment vis-à-vis des policiers, des professeurs, des infirmiers, des pompiers dans tous ces quartiers-là, tous les jours on dit un cap a été franchi. Moi, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que le cap est franchi. À partir du moment où il y a des policiers qui sont brûlés dans leur voiture, des pompiers qui se font caillasser alors qu'ils vont sauver un enfant qui est en train de potentiellement mourir dans un appartement et qui n'ont pas accès à l'appartement, à partir du moment où des professeurs refusent d'aller enseigner parce qu'ils ont peur d'aller dans ces quartiers-là, des médecins refusent d'aller soigner dans certains quartiers parce qu'ils ne peuvent pas y aller tout seuls, ou des pompiers encore, parlons d'eux, qui sont obligés d'être accompagnés par des policiers, ça fait 15 ans qu'on a ces histoires-là. La petite chose qui change depuis quelques temps, c'est que nous sommes obligés désormais de considérer certains de ces faits divers comme des faits de société, parce que l'apparition de la vidéo a un tout petit peu changé les choses. Et que maintenant, quand on a les images sous les yeux, on ne peut plus dire à la personne « Oui, d'accord, bah, vos témoignages, ils sont triés sur le volet, vous comprenez, vous avez bien voulu retenir de ces banlieues ce que vous avez voulu retenir. Bon, » maintenant, quand vous avez une vidéo par jour qui sort, on est bien obligé de reconnaître que ça relève non plus du fait divers, mais bien du fait de société.
Manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir, avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Évoquer justement le rôle des réseaux sociaux, des nouveaux médias, du fait que nous sommes par ailleurs toujours filmés d'une manière ou de l'autre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux, dont on dit grand mal par ailleurs, souvent avec raison, n'ont pas contribué aussi à faire éclater un récit médiatique entendu obligatoire, et non seulement permet à des opinions normalement bannies de se faire entendre dans l'espace public, mais surtout à certains faits, des faits de surgir dans le récit médiatique parce qu'auparavant ils étaient laissés de côté?
C'est une certitude. D'abord parce que les réseaux sociaux sont d'abord un outil. Alors, un outil qui est parfois extrêmement mal utilisé, qui permet toutes sortes de débordements, de déferlements, parfois de haine, mais aussi de remerciements. On ne parle jamais de ceux qui se servent des réseaux sociaux pour remercier, pour encourager. Ils existent aussi. Ça, c'est une certitude. Après, ça mène, et ce sera un autre débat. Et vous disiez, les réseaux sociaux et le fait qu'on soit filmé en permanence, ça amène aussi cette idée d'une société de surveillance de tous par tous qui est extrêmement, enfin moi qui me terrifie clairement, mais c'est encore un autre sujet beaucoup plus large que celui dont on parle, mais il est absolument certain que les réseaux sociaux ces derniers temps ont libéré la parole, puisque c'est désormais une expression consacrée, mais il y a certaines libérations de parole qui étaient interdites. Il y en a qui étaient louées absolument, il y en a d'autres qu'il était absolument impossible de reconnaître et de voir émerger. Et les réseaux sociaux, par le fait du nombre aussi, c'est-à-dire que à partir d'un moment où un fait est relayé par énormément de personnes, puisque notamment, je pense notamment à Twitter, parce que ça a joué un gros rôle, notamment dans le monde médiatique et politique, où les politiques passent leur temps à communiquer par le biais des réseaux sociaux, les journalistes à s'informer, même parfois les uns les autres, par le biais des réseaux sociaux, parce que un homme politique qui autrefois appelait une dizaine de journalistes pour faire passer une information, aujourd'hui, il envoie un tweet et les journalistes se débrouillent. Donc c'est un réseau social sur lequel l'information circulait, sauf qu'il n'était plus maître seul de l'information qui circulait. Donc oui, il y a plein d'informations qui ont émergé par les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos, d'informations, d'une information qui était un entrefilet dans la presse régionale, qui relayait sur les réseaux sociaux finit par monter. Et au bout d'un moment, et ça aussi c'est le développement de médias, alors il y a un peu de tout, mais de médias sur internet plus ou moins reconnus, qui font fructifier aussi ces informations là et au bout d'un moment les médias plus traditionnels, la presse de manière générale, qui s'est sentie à mon avis légitimement menacée par l'émergence de ces nouveaux médias dans la population, s'est dit soit on continue à l'occulter alors que ça n'est pas occulté ailleurs et donc on va perdre beaucoup de gens, soit on reprend à notre compte certaines de ces informations qu'on aurait peut-être aimé cacher volontairement ou par omission dans nos médias mais dont on ne peut plus se passer. Et puis après, il y a la question très cynique mais légitime malgré tout de l'audience. Quand vous voyez que certaines informations tout à coup vous ramènent des gens qui se disaient « moi je regarde plus la télévision parce que c'est devenu parfois un outil de propagande que je ne supporte plus » et que tout à coup ces mêmes médias sont obligés de relayer des informations qu'ils n'avaient pas l'habitude de relayer, l'audience augmente. Alors évidemment, c'est la remise en question est obligatoire.
Alors, il y a un certain débat dans la conception du journalisme aujourd'hui dans nos sociétés. Certains diront les journalistes sont là pour amener, on le disait plutôt, les faits, strictement les faits. En France, il y a le phénomène des chaînes d'info. Ça existe ailleurs dans le monde, mais en France, c'est un phénomène assez particulier. Ils prennent une place très forte dans le débat public. Est-ce que la vertu des chaînes d'info, ce n'est pas justement de mettre en débat les faits qui étaient autrefois présentés comme des faits bruts, de rappeler qu'il y a une diversité de points de vue lorsqu'il vient le temps de les saisir, donc le commentaire, l'opinion dont on aime dire du mal, cette idée qu'il y aurait trop d'opinions dans le débat public, est-ce que cette pluralité d'opinions, cet abus d'opinion peut-être à certains moments, ça ne permet pas néanmoins de mettre en débat, de faire éclater le récit unique qui nous était imposé, en montrant qu'il y a plusieurs angles possibles, plusieurs prismes d'abord pour aborder l'actualité?
Si, bien sûr. Il y a d'abord, en fait, la manière, il y a le fait, très bien, et il y a la manière de présenter le fait. Il y a la manière de choisir un vocabulaire pour qualifier les faits. Il y a la manière de se focaliser sur un angle. C'est une chose qu'on apprend en école de journalisme. Quand on veut traiter un sujet, on choisit un angle. C'est bien le journaliste qui choisit cet angle-là. Or, sur un fait, on peut choisir trois angles différents. Est-ce que, reprenons l'exemple de cette jeune femme transgenre, on peut prendre l'angle de la transphobie en France. Donc, la transphobie en France, encore une jeune femme transgenre agressée à la sortie du métro. On peut prendre l'angle de l'agresseur. Qui a agressé? Qui est aujourd'hui transphobe au point d'aller taper sur une jeune femme parce qu'elle est transgenre? On peut prendre l'angle de la manifestation, parce que c'était une manifestation effectivement de ressortissants algériens en France pour des histoires internes, enfin de politique intérieure algérienne. On peut prendre cet angle-là et ne pas voir cette agression qui a eu lieu. Donc il y a plusieurs angles. Aucun de ces angles n'est complètement faux, mais on comprend bien que le choix de l'angle et le choix parfois aussi d'un angle restreint change complètement la nature des faits. Donc en effet, mettre ces faits-là ensuite en débat sur la manière de lire le fait, c'est extrêmement important. Et puis en plus en France, moi ça me fait toujours un peu rire quand on explique que les chaînes d'info, c'est la foire d'empoigne, c'est la guerre des opinions. Il faut n'avoir jamais participé à aucun dîner familial français pour s'étonner de l'existence de ces débats permanents sur les chaînes d'info. C'est l'histoire de notre vie en France. On passe notre temps à discuter à la fois des faits, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, et de un tel qui a dit ça, et un autre qui a réagi, etc. C'est notre manière de fonctionner. Moi, je pense que c'est absolument essentiel, surtout à un moment où l'idée même, l'idée même du débat, et d'ailleurs parfois refusé par certaines personnes publiquement, l'idée même de pouvoir débattre avec certaines personnes comme si le seul fait qu'elles pensent différemment était rendait impossible le fait de débattre avec eux ou de les fréquenter selon les mots. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Après évidemment que il y a toujours des inconvénients à certains avantages, et que le fait de commenter l'actualité toute la journée et de la commenter parce qu'elle arrive brute au moment où vous êtes en plateau, et parfois on vous dit il s'est passé ça il y a 3 minutes, qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah parfois on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé, d'y réfléchir, et parfois dans la spontanéité, on va dire obligatoire, des chaînes d'infos en continu rend l'analyse plus ou moins pertinente, rend la possibilité de se tromper beaucoup plus grande. C'est vrai aussi, mais ça nous a apporté tellement de un vent de liberté, on va dire, dans le ton et dans la manière d'aborder l'information, que je me plaindrais moins des inconvénients que je ne me réjouirais des avantages ces dernières années.
Alors, vous avez évoqué il y a quelques minutes ce que devient la France, appelons ça comme ça, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, une trentaine d'années, le sentiment de devenir étranger à son pays peut-être, le sentiment de dépossession. Alors il y aura dans 6 mois une élection présidentielle en France. Alors, d'un point de vue québécois, nous regardons ça avec passion, intérêt et perplexité. Si je vous demandais de décrire ce qui s'est passé en France depuis 15 ans ou 30 ans, qui conduit le pays aujourd'hui dans une situation de polarisation très marquée, qui conduit le pays à se poser des questions qui semblent étonnantes vues de l'étranger. Que s'est-il passé en France depuis 15 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans? Peut-être vous me direz c'est quoi le bon marqueur temporel qui fait en sorte qu'aujourd'hui la France est dans un moment peut-être de surexcitation politique.
Et en fait, c'est une conjonction de plusieurs phénomènes, mais je crois que alors on pourrait remonter, je pourrais remonter très loin, hein, parce que je pense qu'il y a une filiation philosophique qui monte même à la Révolution, le basculement dans le pays, dans la manière de voir les choses, dans la philosophie qui mène la politique, a été extrêmement fort au moment de la Révolution française. Maintenant, je pense qu'il y a des enjeux infiniment plus récents, évidemment, dans la manière dont ce pays a basculé, et surtout dans le seul fait qu'on puisse aujourd'hui très légitimement se poser la question de la poursuite de l'aventure française, parce que c'est évidemment, et là en l'occurrence je vais prendre évidemment l'exemple d'Éric Zemmour, il pose cette question-là en ces termes-là, et en 3 semaines il prend 17% dans la population française. Donc cette inquiétude, même si on ne la partage pas, on est obligé de reconnaître qu'elle est partagée par beaucoup de gens qui ne peuvent pas être tous fous. Donc il y a bien au minimum cette idée que oui, la France... Alors certains s'en réjouissent d'ailleurs, ça me fait toujours rire, parce que pendant... moi quand j'étais petite, on me disait mais quoi, mais non, mais ça ne va jamais rien changer quand on abordait la question de l'immigration, ça ne changera jamais rien, vous inquiétez pas, la France est quand même un pays tellement vieux que ça ne peut pas changer, ça va s'adapter, enfin l'immigration va s'adapter et rien ne changera, arrêtez de vous inquiéter. Et puis maintenant on nous dit bah oui, ça change et alors c'est vachement bien. Bon bah du coup il faut choisir en fait. Et il y a certaines personnes qui se réjouissent que la France puisse devenir complètement autre chose que ce qu'elle a toujours été, et il y en a d'autres qui s'en inquiètent. Je fais partie des gens qui s'en inquiètent. Pour diverses raisons. D'abord parce que je pense que moi j'ai toujours un exemple. Il y a un Français très récemment, un jeune Français qui est mort au combat au Mali, et son père, cette phrase m'a beaucoup marqué, mais son père qui était interrogé disait il était toujours inquiet quand il partait sur le terrain ou en opération extérieure, et son fils lui disait mais c'est pour la France papa. Et donc oui, il disait à son père oui je suis prêt à prendre le risque de mourir mais c'est pour la France papa. J'avais l'impression que cette phrase était hors du temps en fait, qu'elle était étonnante, qu'il était étonnant de l'entendre maintenant. Alors évidemment les militaires pourraient bondir s'ils m'écoutaient aujourd'hui, parce qu'ils ont tous cette idée là évidemment quand ils partent au combat. Maintenant les policiers peuvent l'avoir aussi, il y a beaucoup de métiers malheureusement qui peuvent l'avoir aussi aujourd'hui en France. Mais cette idée que tellement de personnes, et même de jeunes personnes, par le seul fait d'aimer ce pays, d'aimer ce qu'ils avaient reçu de ce pays, étaient prêts à lui donner sa vie, ça ne veut pas rien dire dans l'histoire d'un pays en fait. Et moi c'est vrai que ça m'obsède, je me dis mais on peut pas aujourd'hui lâcher le combat en se disant bah après tout ces gens-là sont morts mais la France a fait son temps. Arrivera ce qu'il arrivera, mais en tout cas je m'en voudrais de ne pas m'être battue pour que la France continue à vivre, et continue à vivre en conservant ce qui a fait d'elle un phare pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, il suffit de voyager dans le monde pour voir les lumières qui s'allument dans les yeux des gens quand on parle de la France, pour retrouver instantanément la fierté, une fierté en plus extrêmement humble, hein, on n'y peut rien, d'être né ici. Mais voilà, on a un pays absolument magnifique et cette idée peut être poursuivie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je reprends, j'ai un peu tardé à répondre à votre question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une conjonction entre la culpabilité absolue. En fait, je pense qu'il y a un gros basculement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a une fatigue énorme des Français eux-mêmes après la Première Guerre mondiale, qui a été une hécatombe abominable, puis la Seconde Guerre mondiale, où on se dit, mais finalement, donner sa vie à ce point-là pour son pays, est-ce que ça a un sens ? C'est une question qui se pose. Ensuite, il y a la question, et après la Seconde Guerre mondiale, c'est extrêmement saisissant dans tout le mouvement qui mène à mai 68, où on se dit finalement, on va jouir individuellement des plaisirs de nos vies, on va choisir les uns les autres, plutôt que de s'attacher à une idée qui nous dépasse et qui nous fait mourir dans la plupart des cas. Cette idée est très présente après la guerre en France. Et puis après, la question de la culpabilité, quand on découvre l'ampleur de l'horreur qui a été commise pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a certains intellectuels de gauche, Sartre pour ne pas le nommer, mais et plusieurs derrière, tout ce qu'on a appelé la French Theory derrière, qui s'est développée énormément à ce moment-là, donc qui est partie aux États-Unis et qui nous revient en plein dans la figure, mais qui était malheureusement française initialement, cette idée que l'horreur a été permise par l'attachement à la nation, ce qui est complètement absurde en plus, parce que le nazisme avait deux attachements, la race, ce qui en France n'a aucun sens, en tout cas n'est pas attaché à la nation, ne l'a jamais été dans l'histoire de France. Et la deuxième chose, c'est que le nazisme n'était absolument pas nationaliste, il était complètement impérial. Il ne rêvait qu'à l'Europe et absolument pas à l'idée de nation, si ce n'est d'une nation immense qui aurait la taille de l'Europe. Donc il y a une confusion en plus à la fois des concepts et des enjeux politiques qui m'étonne toujours, honnêtement, hein, très honnêtement, qui m'étonne, mais par contre qui a été extrêmement efficace sur le terrain politique, puisque cette idée de la culpabilisation, c'est-à-dire que si vous réduisez toute idée d'attachement, du coup, à la nation, ou à la poursuite de l'identité d'un pays au nazisme, qui veut y aller ? Personne, évidemment. Qui veut assumer de se faire traiter de près ou de loin de sympathie avec le nazisme ? Évidemment, personne. Et cette culpabilité, elle a été extrêmement présente jusque très récemment, d'ailleurs, certains continuent cette idée-là. Et moi, je crois qu'au bout d'un moment, quand on est suffisamment inquiet pour son pays, pour aller affronter les gens qui disent ça en disant « Vous ne pouvez pas sérieusement croire que nous ayons une haine aussi présente au cœur. Vous savez que c'est faux. » Et la plupart d'entre eux savent que c'est faux. Il faut casser, en fait, cet outil dont ils se servent et se resservent sans même savoir, même l'outil, même historiquement, ce dont ils parlent, et réussir à casser ça en disant que c'est deux choses extrêmement différentes. Par ailleurs, rétablir aussi l'idée, parce qu'il y a une confusion, on parle souvent de l'émotion qui a envahi complètement le débat. C'est parfaitement vrai, mais je crois que le vrai ressort de l'émotion et du problème de l'émotion dans le débat, c'est que nous sommes désormais, on a l'impression en tout cas, que nous sommes désormais incapables de distinguer une personne des actes qu'elle pose ou des idées qu'elle défend. Quand je me bats contre les idées de quelqu'un, je ne veux aucun mal à la personne qui défend ces idées-là. Est-ce qu'il est permis de me laisser dire ça ? Et est-ce qu'il est permis de croire en ma sincérité quand je dis ça ? Je n'ai jamais souhaité le moindre mal à la personne que j'avais en face de moi et qui je n'étais pas d'accord, parce que je considère vraiment que les actes, les idées et les idées défendues sont différentes de la personne qui, elle, conserve toute sa dignité malgré ou à cause ou avec les idées qu'elle défend. Et j'aimerais d'ailleurs à l'inverse qu'on ait les mêmes intentions à mon égard, ce dont je doute parfois. Donc c'est vraiment la conjonction de tout ça, et puis cette idée évidemment extrêmement présente que si la nation est responsable, si l'identité est responsable, si la France est coupable, alors tout ce qui relève de ce qui faisait l'unité d'un peuple, c'est-à-dire l'attachement à un pays, est coupable également. Donc quel est le meilleur moyen de détruire ça ? Et ça, c'est toute l'idée qui sous-tend tout ce qu'on a appelé la French Theory, du coup tous ces penseurs, ces intellectuels de gauche, c'est cette idée que pour déconstruire la nation, quel meilleur moyen que de passer par toutes les minorités revendiquées, d'abord reconnues, puis visibilisées, selon le vocabulaire, et pour détruire ça et se dire on va décomposer le pays en somme d'individualités qui vont se reconstituer en communauté, tout pourvu que la communauté nationale n'existe plus. Donc c'est toute la conjonction de tout ça. Et puis après, je pense aussi à un... Enfin, d'ailleurs, c'est lié, évidemment, mais un désarmement spirituel, intellectuel. On a l'impression qu'il y a une fatigue, en fait. On n'arrive plus, nous-mêmes, à savoir ce que l'on veut poursuivre comme aventure. Donc c'est à la fois... Et vous ajoutez à ça... Enfin, vous ajoutez à ça, c'est-à-dire que vous... oui, c'est ça, vous ajoutez, vous transformez toute cette idéologie, plus exactement, vous collez toute cette idéologie, toute cette philosophie sur le phénomène de l'immigration en se disant, mais merveilleux, on va faire venir des gens qui vont nous enrichir. Alors, c'est tout ce mantra depuis des années et des années. On est les héritiers d'un pays. Encore une fois, c'est une fierté qui baignait d'humilité. Nous sommes des héritiers d'un pays incroyable, avec une culture incroyable, une langue magnifique, une histoire complètement dingue. Et on a passé 30 ans à nous expliquer, on va accueillir des gens, non pas en leur disant, vous pouvez devenir français et la France va devenir une chance pour vous, vous imaginez la chance que c'est de pouvoir devenir français, mais en disant aux Français, vous allez accueillir des gens qui vont vous enrichir. Parce que bon, être français, c'est compliqué. La France est coupable, essentiellement coupable, et surtout coupable, et coupable de tout dans son histoire. Et donc, on va se laisser enrichir par des gens venus d'ailleurs, qui d'ailleurs peuvent avoir des cultures, des revendications, des mœurs qui sont tout à fait respectables. Il y en a d'autres que je discuterai plus facilement, mais il y a des mœurs qui peuvent être très respectables, mais qui sont tout simplement pas françaises. Alors, on a décidé, il y a quelques années, que c'était une insulte de distinguer les cultures, de distinguer les personnes, de distinguer un étranger d'un national. Ça relève de la folie pure dans quasiment tous les pays du monde, mais en France et peut-être plus largement d'ailleurs en Occident, ça relève de l'intelligence suprême, du progressisme. Je ne communierai pas de cette nouvelle religion.
Voilà. Nous nous rapprochons de la fin de notre entretien. Vous avez évoqué une fatigue française. Vous avez évoqué le sentiment que plusieurs tendances lourdes ont conduit à la situation présente. On sent aujourd'hui, en France par ailleurs, peut-être un désir de redressement qui prend plusieurs visages probablement, une renaissance de la pensée conservatrice, une renaissance de l'idée de nation depuis plusieurs années. Aujourd'hui, une passion autour d'une candidature, la candidature Zemmour, qu'on apprécie ou non, la question n'est pas là, mais qui, pour ceux qui qui s'y rallient, le font sous le signe de l'optimisme en se disant que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas espéré une victoire. Ensuite, comme je dis, chacun jugera selon ses préférences. Comment expliquez-vous cette espèce de basculement de la fatigue à l'espérance? Que s'est-il passé pour que cela semble redevenir possible pour ceux qui y croient?
Parce que la fatigue, Dieu merci, ne détruit pas l'instinct de survie. Et je pense que c'est vraiment ça la question fondamentale. On peut être épuisé, n'importe quelle mère ou n'importe quel père, ou même n'importe quel fils ou fille d'ailleurs, le sait, au moment où il s'agit de survivre, où il s'agit de sauver son enfant, sa mère, ses frères ou ses sœurs, à ce moment-là, on peut être le plus fatigué du monde, l'instinct de survie prend le dessus. Et quand je disais tout à l'heure que la question, et c'est d'ailleurs à mon avis le ressort du succès fulgurant, et tout le monde est obligé de le constater, d'Éric Zemmour dans cette campagne, alors qu'il n'est encore même pas déclaré candidat. Son succès, c'est tout simplement d'avoir commencé l'idée de sa candidature, enfin d'avoir basculé du journaliste au politique, en résumant tout ce qu'il avait défendu comme journaliste puis comme éditorialiste sur le terrain politique, en disant la seule question que je pose, c'est celle de la survie de la France. Et je pense très honnêtement, il y a une fois où il a fait une interview, c'était au tout début de son marathon d'interview pour la promotion de son dernier livre. Il était chez Jean-Jacques Bourdin ce jour-là, il a terminé son interview en disant « Je voudrais dire aux Français que l'enjeu de cette élection, que l'enjeu des années qui nous attendent, c'est simplement de dire « Regardez la culture dont vous avez hérité et par pitié, défendez-la. » Et je pense que cette phrase a sonné comme un électrochoc chez beaucoup de gens en se disant « Mais en fait, c'est vrai que c'est une question qui se pose. » Enfin, moi, je partage en tout cas vraiment à la fois l'inquiétude et la question telle qu'elle est posée. Et il est évident que pour moi, la question de la fatigue... Mais la fatigue, en plus, elle est multiple, mais elle relève aussi du fait que quand on ne vous a pas enseigné votre histoire, si ce n'est sous son angle le plus sombre, quand on vous a expliqué que la France était essentiellement coupable et que maintenant était arrivé le temps où elle devait demander pardon, sans jamais vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles elle pouvait être fière, à la fois de son histoire, des pages absolument glorieuses, des héros qui ont composé toute sa littérature, son histoire, enfin vraiment, quand on vous a jamais rappelé ça, Qu'est-ce que vous voulez poursuivre comme aventure, en fait? C'est impossible. Et là, tout à coup, arrive la question de se dire, ben voilà, vous vivez dans un pays, et puis c'est, vous savez peut-être plus vraiment qui vous êtes, mais vous savez les paysages, vous savez le... Parfois, ça passe par des choses absurdes. Hein. On a des débats permanents sur le voile. Vous savez la manière dont vous vous reconnaissez dans la manière de vous vêtir. Vous savez la manière dont vous vous reconnaissez dans la manière de partager un repas. Vous savez, toutes ces choses extrêmement concrètes qui font un peuple, en fait, qui font des amis, qui font une famille et donc qui font un peuple, eh ben, aujourd'hui, elles apparaissent comme menacées. Elles apparaissent évidemment comme menacées parce que quand il y a des revendications de tous ordres sur toutes ces questions de mœurs et de coutumes dans un pays, vous dites mais demain ce pays ressemblera à quoi ? C'est ça la question qui est posée sur le terrain culturel, c'est une question qu'il est absolument légitime de poser, et je répète d'ailleurs, il y a dans ce pays des gens qui s'en inquiètent et d'autres qui s'en félicitent, mais tout le monde accepte de reconnaître que le pays change clairement et qu'il est en train de basculer culturellement dans autre chose. Alors certains défendent le multiculturalisme, certains défendent un changement de culture de la France elle-même, et certains aimeraient juste que l'on conserve ce qui fait la beauté de la culture française.
Charlotte Dornelas, c'est un grand plaisir de vous recevoir, on se démène le monde, merci.
Merci beaucoup à vous.
Chers auditeurs des Idées Mènent le Monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN, ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bock-Côté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.